Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis nous retrouverons nos critiques, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, qui vous livreront leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs du jour, Frédéric Simotel, Alexandra Paget, qui feront notre traditionnel Globetrotter et notre traditionnel bibliothécaire pour voyager dans le monde et dans le temps. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos auteurs. C'est un univers aussi complexe et technique qu'exaltant et passionnant que nous vous proposons de pénétrer aujourd'hui celui de la finance verte. Est-ce qu'elle n'est pas un mirage qui permet au monde de la finance de s'acheter une bonne conscience? Ou bien est-ce qu'il faut placer en elle le formidable espoir de la transition écologique de nos économies? Et si oui, à quelles conditions et grâce à quelles incitations? Réponse à toutes ces questions avec nos deux invités. Julie Ancidei, bonjour.
Bonjour.
Julie, vous êtes responsable de l'unité stratégie et finance durable de l'autorité des marchés financiers et vous publiez avec Noam Léandri La finance verte aux éditions La Découverte. Julien Lefournier, bonjour.
Bonjour.
Julien, vous êtes consultant, vous avez travaillé 25 ans sur les marchés financiers et vous publiez L'illusion de la finance verte avec Alain Grandjean, c'est aux éditions de l'Atelier. Je commence avec vous, Julien Lefournier, pour d'abord peut-être cerner le périmètre de cette finance verte. Qu'est-ce qu'on met derrière ce vocable?
Écoutez, je dirais que c'est pas très clair. Il y a des... Franchement, c'est pas très clair. Il y a des produits, comme l'obligation verte, et puis il y a des approches. Donc par exemple, on met... En général, verte est utilisé comme un synonyme de durable. Et on met, par exemple, l'investissement socialement responsable dedans, ouais. L'ISR, puisqu'il est responsable, il est durable. Donc, en fait, ça recouvre des choses extrêmement variées. Et c'est pas très facile à cerner, en fait.
Ça représente quelle masse, aujourd'hui, sur les placements c'est combien de milliards, à peu près?
Je sais pas. Les chiffres m'intéressent pas tellement, parce que, comme, justement, dans le bouquin, avec Alain, on montre que, bon, c'est un, comme vous l'avez compris, le titre n'est pas mensonger.
Ouais.
C'est un peu du vent. Du coup, on n'est pas là à compter les euros. Et d'ailleurs, je veux dire, les investisseurs eux-mêmes sont assez décontractés. On signe des promesses pour.
Alors, justement.
Et on promet le tout ISR. Donc, je ne crois pas que ce soit ces euros-là qui soient intéressants à compter pour la transition.
C'est alors, justement, problème. Vous avez une préface de l'économiste Gaël Giraud, qu'on connaît bien, dans la librairie de l'Écho. Alors, il y va cash. Hein. Il dit, finalement, la finance verte, c'est une invention de l'univers de la finance pour s'acheter une vertu et une bonne conscience. C'est pas un peu sévère quand même?
Non, c'est pas sévère. C'est, en fait, nous, on essaie juste de montrer que c'est factuel, en fait. C'est-à-dire, ça peut paraître un peu désagréable et on nous a fait un peu le reproche, mais c'est assez factuel. Vous prenez, je sais pas, il y a un produit que vous connaissez bien, par exemple, comme l'obligation verte.
Ouais. D'accord.
Les gens en ont entendu parler. Et donc il y a des débats pointus et intéressants et légitimes pour savoir ce qui est vert, ce qui n'est pas vert. C'est ce qu'on appelle la taxonomie d'une manière générale. C'est pas forcément d'ailleurs trivial. Hein. Si je vous dis que je vais faire un barrage pour fabriquer une centrale hydroélectrique, on se dit renouvelable c'est bien, mais de l'autre côté on va noyer une vallée, détruire de la biodiversité. Donc on voit qu'on est parfois sur des choses qui sont un peu compliquées. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on s'est mis d'accord sur ce qui serait vert ou pas, le problème qui reste et qui est entier pour nous, c'est que l'émetteur paye exactement le même prix pour faire ce projet vert ou l'alternative brune. Donc, vous parliez d'incitation, je crois que c'est la clé en économie. Donc, il n'y a aucune incitation pour l'émetteur à faire un projet vert plutôt qu'un projet brun par rapport donc à l'utilisation de cet outil. Le coût est le même. Vous prenez Total, puisqu'aujourd'hui Total se diversifie.
Ouais.
Donc, il peut dépenser un peu d'argent en investissement pour faire des énergies renouvelables. et puis beaucoup plus d'argent, c'est plutôt 80, c'est 80-20 alors de grandeur. 80% donc de ses investissements, c'est la maintenance de ces équipements de production d'énergie fossile, voire de nouvelles, c'est ça qui est sinistre, voire donc de développer de nouvelles capacités. Eh bien, si Total émet un bond de vert pour les projets verts, il paiera strictement la même chose. Et donc ça, si vous voulez, c'est la limite du discours.
Oui, mais est-ce que parce que vous dites le problème, c'est qu'effectivement il y a un bilan qui est compliqué à faire, puisque vous savez combien ça vous coûte l'investissement vert, mais vous savez pas combien ça vous rapporte. Mais j'ai envie de vous dire, face à ça, on a l'incertitude de ce que ça rapporte, mais on a la certitude que l'investissement brun, de toute façon, à terme, il est condamné. Donc, est-ce qu'on a vraiment le choix ou pas?
Oui, bien sûr qu'on a le choix. Condamné, je sais pas. Je sais pas, Total vous paraît une entreprise moribonde, je crois pas. Donc, il faut faire attention au discours. Chacun veut voir midi à sa porte, mais personne ne connaît le futur.
Et je pense. Ouais, mais qui investirait massivement dans le pétrole aujourd'hui?
Bah, il y a plein de gens. Il y a plein de gens. D'ailleurs, quand des investisseurs qui effectivement subissent un peu la pression et désinvestissent, vendent des titres. Et ils vont pas à la poubelle, ces titres-là. Ils sont rachetés par des hedge funds. Aujourd'hui, il y a des tas de fonds qui font de très belles affaires. C'est un peu cette illusion-là aussi qu'on décrit. C'est-à-dire l'illusion que la finance verte, c'est un monde à part avec ses investisseurs, ses produits. Ouais. Non, vous pouvez acheter un peu plus de... Tout le monde paye le même prix, les mêmes actions. Souvent, les investisseurs sont les mêmes. Hein. Simplement, ils ont des fonds verts. Enfin, ils ratissent large, si vous voulez, mais ils sont plutôt agnostiques. Et donc, ça fait partie de l'illusion. On pensait qu'il y a... Non. Les marchés financiers sont assez rationnels de ce point de vue-là. C'est la loi du prix unique. Si vous ou moi, on veut acheter une action, on paiera aujourd'hui à la même seconde exactement le même prix. Alors, quelles que soient nos intentions, vous voyez.
Ouais. Vous citez beaucoup Mark Carney, qui est l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, hein, qui a écrit sur G. Et lui, il a une expression qui est la tragédie des horizons.
Tout à fait.
Très belle expression qu'on pourrait traduire aussi par toujours ce débat fin du monde, fin du mois, finalement, qui est un peu plus trivial. Ouais. Sans doute. Moi, je croyais pourtant, Julien Lefournier, que le rôle de la finance, c'était justement de résoudre cette problématique entre le court terme et le long terme. C'est-à-dire de faire de la transformation qui vous permettait de transformer les contraintes de court terme en opportunités pour le long terme.
Ouais, ça, c'est un peu théorique, parce qu'après, quand on regarde comment on calcule, vous avez raison. Mais quand vous regardez comment on calcule, comment on actualise, par exemple...
Ouais, vous dites ça, c'est un problème majeur.
Bah, c'est un problème majeur, parce que là, vous avez raison, le long terme, le court terme, le moyen terme, le court terme. Mais quand on regarde comment les financiers calculent, et pas que les financiers, d'ailleurs, vous savez, les économistes font exactement la même chose. C'était le débat dans tous ces modèles de coûts-bénéfices.
Ah oui, exactement.
Quand on veut comparer de la monnaie future à de la monnaie présente, on est obligé d'actualiser. Sinon, on ne sait pas additionner des flux aujourd'hui et dans 50 ans ou dans 100 ans. Donc, pour les additionner, il faut actualiser. Eh bien, donc je peux d'un côté dire oui, je suis un investisseur de long terme et je fais une série très très longue et qui voit 100 ans. Mais d'un autre côté, si je fais comme Bill Nordhaus, le prix Nobel d'économie, et j'utilise 6%, eh bien 100 dans 50 ans, ça vaut 5. Bon, alors que ce soit un dommage, j'aurais pas très mal. Hein, si j'aurais pas, ou que ce soit un bénéfice, c'est un problème. Donc je sais bien qu'il y a cette histoire qu'on raconte sur... l'investissement de long terme, la précaution de long terme, et il y a des profils d'investisseurs qui sont assez différents. Et encore une fois, Emmanuel Lechypre, quand vous dites ça, vous êtes biaisé. Vous regardez toujours la partie agréable, parce que moi, je pourrais vous parler du high frequency trading, du trading à haute fréquence, qui est lui plutôt dans la milliseconde. Donc, on regarde toujours ce qui nous intéresse et pas ce qui nous intéresse pas, pas ce qui nous fait mal. La finance ne se résume pas du tout à l'investissement de long terme, et même ceux qui investissent à long terme actualisent à des taux. La conjonction de actualiser et d'utiliser et d'avoir une exigence de rentabilité élevée, ça fait disparaître le futur en réalité. Et c'est bien pour ça que Carnet parlait de tragédie des horizons. Cela dit, il ne propose rien pour résoudre le problème. Voilà.
Alors, vous dites il y a un deuxième problème. Il y a le problème que vous avez en partie évoqué sur le fonctionnement des marchés.
Ouais.
Donc votre première partie, elle est plutôt consacrée à ça dans le livre avec Alain Grandjean.
Oui.
Et puis il y a une deuxième partie où vous vous dites bon bah ok, le fonctionnement des marchés ne permet pas de résoudre l'équation financière verte, mais est-ce que il y a des produits financiers qui quand même permettent de résoudre cette équation. Alors vous avez commencé à évoquer la question des obligations vertes, mais est-ce qu'il n'y a pas des solutions à trouver de ce côté-là quand même ?
Oui, vous avez absolument raison. C'est exactement comme ça qu'on a conçu le bouquin, avec cette partie qui montre que le marché tel qu'on le connaît tous, bon, il ne va pas s'occuper de ce problème-là, il ne va pas prendre en charge de ce problème-là. Il ne va pas prendre en charge ce problème-là, pardon. Et donc, effectivement, si on pense finance verte, on peut penser à un chaînon manquant, quelque chose qui permet de... Et on se rend compte, donc on prend quelques exemples, que ce n'est absolument pas le cas. Le paradoxe qui est insurmontable, c'est le suivant. C'est que si vous voulez... Parce que c'est quoi la transition ? On parle parfois de croissance verte, mais la transition, c'est pas la... Je ne sais pas ce que ça veut dire, la croissance verte, mais... En tout cas, ce que je sais, c'est que si on veut faire une transition, il ne s'agit pas de rajouter des actifs verts à l'économie carbonée du business tel qu'on l'a. Si on fait que rajouter des actifs verts, on ne fait pas baisser la production de gaz à effet de serre, forcément. Donc, il s'agit de rajouter des actifs verts et de retrancher des actifs bruns. C'est bien ça, la transition. Bon. D'ailleurs, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on rajoute des énergies renouvelables, mais on ne ferme pas les centrales à charbon. Hein. On fait ce qu'on a toujours fait. Quand on a des sources d'énergie nouvelles, on additionne et on ne substitue pas. C'est normal, la demande augmente. Hein. Ce n'est pas mystérieux. Les gens ne sont pas méchants. Et en tout cas, c'est exactement ce qu'on observe. Et bien, en finance, une finance verte, c'est une finance qui, du coup, serait le miroir de cette économie qu'on voudrait en transition, c'est-à-dire qui privilégierait, qui réallouerait le capital en faveur des actifs verts et au détriment des actifs bruns. D'accord ? C'est plus, c'est moins. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est en même temps. Hein. Donc, on donne au vert, on donne au brun. Bah oui, les banques continuent de financer Total et de nouvelles explorations en Arctique, etc. Et donc, c'est un en même temps. Et même, j'allais dire, on est encore dans surtout du brun et un peu de vert, hein, malheureusement. Pour un euro donné pour la transition, on en donne encore 2 à 3 à l'économie carbonée traditionnelle. Donc, juste pour répondre à votre question, j'ai parlé de l'obligation verte. Ça, c'est un cas d'école qui est merveilleux. Vous voyez pourquoi ? Parce qu'on a un émetteur. Donc ça, même le grand public peut comprendre. Une obligation, c'est un risque, on appelle ça un risque crédit, un risque emprunteur. Donc que l'émetteur émette une obligation verte ou une obligation lambda, traditionnelle, conventionnelle, standard, appelons-la comme on veut, le risque est le même. Et donc toute la théorie financière vous dit que si le risque est le même, le prix est le même. Eh bien ça, c'est un exemple fabuleux parce que c'est exactement ce qu'on observe. Et nous, dans le bouquin, on démontre d'ailleurs pourquoi, en regardant même le processus de mise, de processus qu'on appelle d'enchères primaires, il ne peut pas en être autrement. Mais c'est exactement ce qu'on observe au point de base près, je veux dire.
Voilà. Alors, Julie Ancidei, vous entendez Julien Le Fournier qui vous dit, si on laisse le fonctionnement naturel des marchés se faire, cet espoir que la finance soit le bras armé finalement de cette transformation économique extraordinaire ne se réalisera jamais. Donc un des enjeux, c'est quand même de flécher cette épargne et cet argent vers la transition verte. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors, je crois que Julien a raison. On est vraiment à un moment un peu charnière où on entend beaucoup parler de finances vertes, beaucoup finances durables. Il y a des enjeux de définition très importants et sur la taille du marché, je rejoins Julien, c'est difficile de le quantifier parce que derrière, il y a beaucoup de choses différentes, d'ambitions différentes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les dispositifs qui sont en train de se mettre en place sont fondamentalement basés sur des outils de transparence, un peu d'obligation, notamment d'obligation de transparence, de la pression sur la gestion des risques, la pression des superviseurs prudentiels. Mais c'est vrai que c'est des incitations dont on va voir encore si ça fonctionne pour faire bouger le marché et faire bouger les capitaux vers effectivement moins de brun et plus de vert.
Alors, à quoi sert cette fameuse taxonomie verte, en gros, c'est-à-dire ce catalogue dans lequel on dit ça c'est vert, ça c'est pas vert ?
Alors, c'est un bon exemple, effectivement, d'outil qui a été conçu donc dans le cadre du plan d'action pour la finance durable publié par la Commission européenne en 2018 et ensuite adopté par les co-législateurs européens. Et c'est vraiment l'idée d'avoir un gros dictionnaire qui permet au marché, de manière volontaire, de définir ce qui est vert ou pas, fondé sur des critères techniques, donc liés aussi à l'évolution de la science, et qui définit une trajectoire de ce que serait l'économie européenne à horizon 2050, et donc une économie bas carbone. Donc ça donne des points de repère pour assurer les investisseurs sur effectivement les financements qui vont à ces activités vertes, et pour les entreprises pour fixer la trajectoire de leur décarbonation. Donc c'est à la fois les sources d'énergie, mais aussi l'idée d'avoir des processus industriels, par exemple, moins émetteurs. Et c'est un outil qui est volontaire, mais qui va être accompagné d'obligations de transparence des entreprises qui vont devoir donner l'information sur la part de leurs investissements, de leur chiffre d'affaires et de leurs dépenses opérationnelles qui sont alignées avec cette taxonomie, qui ne concerne pas que le climat, mais les objectifs environnementaux. Et puis aussi pour les activités, les produits financiers et les acteurs financiers. Donc c'est encore une fois un dispositif mais fondé sur la transparence.
La question c'est, et Julien Le Fournier, vous l'évoquez d'ailleurs quand vous parlez du bouquin de Bill Gates,
oui,
où il dit s'il n'y a qu'une seule chose à retenir dans notre
Absolument.
Bouquin, c'est comment on fait pour réduire la prime de risque verte.
C'est pour ça que je reviens toujours sur cette histoire de prix. D'ailleurs, c'est fou,
oui,
on est en finance et personne ne parle de prix.
Mais alors, justement,
le régulateur, le prix, ça ne l'intéresse pas. Les ONG, les prix, ça ne les intéresse pas. On ne s'intéresse pas à ce que c'est que la finance.
Qu'est-ce qu'on fait justement pour inciter l'épargnant à aller vers ces produits qui pourtant présentent des primes de risque? Est-ce que c'est des avantages fiscaux? Je ne sais pas.
Mais c'est vrai que je pense que la complexité, c'est pour ça que dans le livre, on essaye de présenter les différents concepts et de poser des questions, parce qu'effectivement, on n'a pas toutes les réponses. Mais l'idée, c'est qu'il y a le risque, le rendement, et là, on essaie d'introduire une nouvelle dimension qui est de l'impact, et l'impact des investissements, l'impact des entreprises sur la société ou sur l'environnement. Donc c'est une nouvelle dimension. Donc pour les épargnants, c'est effectivement, c'était un des leviers d'action de la commission, du rapport d'experts en 2018, puis du plan d'action de la Commission européenne pour la finance durable, avec l'idée que on va demander, et c'est à partir de l'été qui vient, donc c'est très rapide, on va maintenant demander aux investisseurs quelles sont leurs préférences en matière environnementale, sociale et de gouvernance, avec cette idée que non seulement l'offre, on voit effectivement, se développe très rapidement, le marché de l'investissement responsable explose un peu aussi les produits verts. Donc non seulement il faut travailler sur l'offre, mais aussi la demande, avec l'idée que les préférences des citoyens vont aussi se retrouver dans leurs
mais
préférences.
Mais est-ce que c'est pas ça qui va faire la différence finalement? C'est-à-dire que est-ce que ce ne sont pas les aspirations des épargnants qui vont dire de toute façon nous on veut aller vers ce type d'investissement? Je sais pas, quand BlackRock dit par exemple on ne financera plus que des activités vertes, c'est quand même un choix philosophique fort.
Alors, c'est un choix philosophique, mais effectivement, il y a des conditions pour que ça se réalise de façon saine, soit robuste. Donc, on voit que dans les études qu'on fait, notamment à l'Autorité des marchés financiers, on a vu que les épargnants sont intéressés par l'impact de leur investissement. C'est-à-dire, ils se posent la question de à quoi sert leur épargne et en quoi est-ce que c'est positif ou négatif, notamment pour le climat. Après, ils restent un peu méfiants, notamment sur les problématiques de greenwashing, hein, quand même. Et puis, c'est des produits qui sont quand même très compliqués, très diversifiés, effectivement, avec on va de produits très verts à des produits qui prennent en considération ces enjeux environnementaux et sociaux dans une finance qui reste largement traditionnelle. Donc c'est un panorama très, très diversifié. Donc il y a des enjeux de compréhension assez fortes. Il y a des enjeux de formation des conseillers dans ce dialogue qui va s'instaurer entre le client
et puis il y a des enjeux de reporting aussi pour les entreprises. C'est-à-dire que ça bouleverse complètement la façon de présenter les comptes des entreprises, par exemple.
Voilà. Alors ce qui a été fait au niveau européen est parti d'ailleurs d'un dispositif qui existait en France dans une moindre mesure, de la transparence des investisseurs. C'est-à-dire, dites-nous comment vous traitez ces risques climat, qui maintenant tout le monde est d'accord pour dire que c'est aussi un risque financier, mais plus généralement ces enjeux de durabilité, dites-nous comment vous le faites. Et maintenant la Commission européenne est allée et les co-législateurs sont allés plus loin en donnant de la transparence sur les produits financiers. Donc ça se met en route, il y a des enjeux de méthodologie assez importants. Mais pour ça, il faut effectivement l'information des entreprises. Et alors en Europe, on avait déjà un cadre de reporting des entreprises, mais qui était encore assez peu satisfaisant en termes à la fois de disponibilité de l'information, de robustesse, de comparabilité, etc. Donc là, c'est encore un nouveau train qui arrive.
Franchement, puisque vous parlez de l'Europe, est-ce que on peut se féliciter que l'Europe soit pionnière dans ce genre d'aventure entre guillemets, mais est-ce que l'Europe n'en fait pas trop quand même? Est-ce qu'on se tire pas des balles dans le pied en permanence en essayant de s'afficher comme les plus vertueux sur tous ces sujets et est-ce que ça va pas nous pénaliser finalement? Est-ce que ça va pas pénaliser nos banques?
Alors, je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure sur la tragédie des horizons, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une question d'horizon et que à long terme quand même on peut considérer que c'est gagnant. Et puis c'est vraiment effectivement ultra important de rappeler ce rôle pionnier de l'Europe. Et encore il y a 2-3 ans, moi j'imaginais pas que ces concepts qui viennent de l'Europe, la taxonomie, les investissements durables, l'idée aussi qu'il faut que votre contribution à un objectif ne soit pas néfaste pour une autre problématique. Tout ça, c'est des concepts qui maintenant arrivent au niveau international. Et cette idée de reporting des entreprises qui existait au niveau européen, maintenant on parle d'un standard international de reporting climat et de durabilité pour les entreprises. Donc c'est vraiment l'impulsion européenne et je pense la responsabilité aussi de l'Europe, de ses entreprises, ses acteurs financiers, de faire progresser les sujets dans cette direction.
Et alors pour faire progresser les sujets, quel pourrait être ou quel doit être le rôle par exemple du régulateur en matière prudentielle? On voit maintenant que les banques centrales se fixent dans leurs objectifs aussi la transition écologique. Qui doit faire quoi?
Je pense qu'il y a, tout le monde doit prendre sa part. Donc il y a effectivement un enjeu de robustesse hein, l'entièreté de l'écosystème, hein, des données publiées par les entreprises, de comment elles sont utilisées dans les agences de notation, dans les fournisseurs de données, le rôle des auditeurs, des vérifications de toutes ces informations. Et puis, bien sûr, les superviseurs, à la fois pour tout ce qui est robustesse, sincérité de l'information qui est fournie par les acteurs financiers ou pour les entreprises, dans le cas des autorités de marché. Et puis, les superviseurs prudentiels ont commencé, effectivement, à regarder ces risques du point de vue des risques pour les institutions financières ou pour la stabilité financière. Donc il y a un rôle très important des banques centrales via ce réseau des banques centrales qui a été créé il y a 2 ans, d'ailleurs à l'initiative de la Banque de France, et qui maintenant a plus de 100 membres, dont la Réserve fédérale américaine. Donc il y a un angle stabilité financière. Ils ont aussi clairement établi qu'il y a un lien avec le mandat des banques centrales. Et puis, effectivement, des questions prudentielles autour du risque pour les institutions. Et donc on voit les premiers stress tests avec énormément de difficultés méthodologiques, et ça, je pense qu'aussi c'est des choses qui vont progresser au cours du temps. Et puis dans quelle mesure est-ce qu'à un moment ou à un autre il faudra éventuellement pénaliser des activités marron par exemple, parce qu'elles représentent un risque financier.
Les activités marron, hein, rappelons-le, c'est l'ancien monde, quoi.
Oui,
c'est le monde carboné, quoi.
Ouais. Vous voyez déjà là l'écart entre pénaliser les activités marron parce qu'elles représentent un risque financier. En fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est tout simplement pénaliser les activités marron parce qu'elles représentent un risque pour la biosphère à cause des émissions de gaz à effet de serre associées. Je veux dire, avant d'être un risque financier, c'est un risque tout court.
Justement, vous, Julien Lefoy, c'est quoi vous, les solutions qui pourraient faire changer la donne? C'est-à-dire, en gros, qu'on ne soit pas dans, finalement, une espèce de verdissement artificiel de la finance.
Je pense qu'il ne faut pas se bercer d'illusions et reconnaître ce qu'est le marché. Le marché, c'est la liberté. La liberté de spéculer au sens noble du terme, d'acheter et de vendre. C'est ça.
Mais est-ce que c'est pas ça la magie du capitalisme d'ailleurs? C'est que par intérêt, on s'oriente naturellement vers ces investissements verts.
Non, ça je crois pas. Non, il y a strictement aucune raison, si vous voulez. Parce que, je reviens à ce que vous soulignez tout à l'heure. Bill Gates nous dit, si je veux que les gens retiennent une chose de mon bouquin, c'est qu'il faut réduire les primes vertes. Donc, parce que le problème de départ, c'est que le vert, ça coûte cher. Ça, je crois que c'est l'élément que tout le monde essaie d'oublier parce que ça fait un peu mal. Hein, c'est pas politiquement correct. C'est pour ça qu'on préfère parler de croissance verte. Mais non, le vert, ça coûte cher. Décarboner, ça coûte de l'argent. Le patron du plus gros lobby de l'industrie allemande a dit 80% des projets de décarbonation ne se font pas parce qu'ils sont pas rentables. Donc, c'est ça la donnée. ArcelorMittal, uniquement pour leur site de Dunkerque, a dit 5 milliards. Alors, on me dit, oui, mais la finance existe puisque les banques ou les investisseurs finance des éoliennes. Mais bien sûr qu'ils financent des éoliennes. La Cour des comptes nous dit qu'on a mis 120 milliards de subventions. Moi, donnez-moi 120 milliards et garantissez-moi des tarifs de rachat. Je vous fais un magnifique actif financier sur lequel tout le monde va se jeter. Il n'y a pas de souci. Donc, en ce moment, il y a un petit peu un délire sur nous. Ce dont on parlait, c'est de la finance privée. Donc, ce que vous dites, non, ça n'arrivera pas. La main invisible du marché, elle ne va pas naturellement vers le vert. Elle va vers ce qui est rentable. Et aujourd'hui, il n'y a aucune raison de penser que la transition est rentable. D'ailleurs, au départ, elle ne l'est pas, puisque produire en assumant une extrémité négative qui était considérée comme gratuite avant, forcément, ça vous met. C'est la prime verte de Bill Gates.
Ouais.
Et donc, pour moi, la finance verte, c'est une finance qui prendrait sa part de ce surcoût. Ouais. Et aujourd'hui, c'est absolument pas le cas.
Ouais. Alors comment on fait justement? C'est quoi les priorités, Julien Sidéhi?
Je pense qu'effectivement, on voit de plus en plus d'entreprises, par exemple, qui s'engagent à une neutralité carbone à 2050. Donc maintenant, au-delà de ces engagements, on le voit aussi pour le secteur financier, des alliances net zéro, etc. Donc on voit bien que maintenant, derrière ça, il va falloir des chiffres, et notamment de combien ça coûte, combien est-ce que ça va coûter en termes d'actifs échoués, donc ceux dont on ne pourra pas transitionner, ou bien en termes d'investissement, combien est-ce
les
que...
Les actifs échoués.
Alors, les actifs échoués, c'est ceux dont la valeur va perdre beaucoup parce que soit le modèle économique bas carbone ne supportera pas ce ou parce qu'ils auront les pieds dans l'eau. Voilà. Donc, c'est des actifs dont la valeur financière va voilà. Mais il va falloir effectivement que les entreprises et les acteurs financiers, lorsqu'ils prennent des engagements, notamment vers la neutralité carbone, donnent les chiffres derrière. Et les initiatives en termes de transparence des entreprises vont aller non seulement sur effectivement quels sont les engagements en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur lesquels vous promettez de donner des résultats, mais aussi quels sont les éléments financiers. Donc un des enjeux assez vite, ça va être effectivement de reconnecter l'extra-financier et le financier pour qu'on puisse, pour que les signaux aussi arrivent.
Eh ben voilà, merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres, Julien Le Fournier avec Alain Grandjean, L'illusion de la finance verte, c'est aux éditions de l'Atelier. Julie en CDI et Noam Léandri, La finance verte, et ça, c'est aux éditions La Découverte. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons avec nos chroniqueurs. Aujourd'hui, c'est Frédéric Simotel qui jouera les Globetrotters et Alexandra Paget qui sera notre bibliothécaire. Et puis, on retrouve tout de suite nos deux critiques. À ma gauche, Christian Chavagneux, Alternative économique, où il est éditorialiste, critique de livres. La plume de Alternative économique pour les livres, quand même. Depuis 20 ans. Je suis admiratif, Christian, de tous les livres que vous avez lus. Jean-Marc Daniel, qui lui est professeur émérite à la, j'allais dire, à la Société d'économie politique, n'importe quoi. Il est professeur émérite de l'ESCP et le critique attitré de la Société d'économie politique. Messieurs, on commence avec le choix de Christian Chavagneux, qui visait à déstabiliser Jean-Marc Daniel, le Bordelais, puisque ça s'appelle « Les raisins du Reich ». C'est écrit par Antoine Dreyfus et c'est publié chez Flammarion. De quoi s'agit-il, Christian ?
Eh bien, on se plonge dans cette période un peu difficile de la Seconde Guerre mondiale et du rôle particulier des marchands de vin, des producteurs de vin qui ont, il faut le dire, été de grands collaborationnistes. Ils ont de grands collaborateurs, je ne sais pas comment on dit, collaborationnistes, oui, en tout cas, ils étaient tout à fait admiratifs du pouvoir de Pétain et du pouvoir nazi. Alors Antoine Dreyfus, il n'a pas fait une enquête spécifique, mais il a trouvé en Bourgogne, en Champagne et dans le Bordelais, il a trouvé les travaux d'historiens importants qui ont creusé cette contribution donc, des vignobles français à la
présence. Ah oui, donc ça ne concerne pas que le Bordelais.
Ça ne concerne pas que le Bordelais. D'accord. On va faire un petit tour en Champagne, on va faire un petit tour en Bourgogne, et puis bien sûr, Bordeaux, parce que c'est là où on va s'apercevoir que les plus grands collaborateurs, en fait, étaient là, du côté de Bordeaux. Ce qui m'a intéressé, et donc Antoine Dreyfus, il a trouvé les historiens qui ont travaillé sur ces trois régions, et il les met en scène tous les trois, et c'est l'ensemble. Ce qui m'a intéressé dans le livre, c'est qu'il essaie de nous expliquer pourquoi est-ce que, bon, on sait, hein, Louis Renault, les grands patrons français qui ont collaboré avec les nazis, on a déjà plein de choses. Mais pourquoi est-ce que, spécifiquement, ces producteurs de vin et de champagne ont collaboré ? Il nous dit déjà, il y a une raison économique. Dans les années 30, il y a une surproduction, et cette surproduction, elle a fait chuter les prix. Quand les nazis arrivent en France, en 40, en juin 40, bon, ils pillent un peu, mais après, ils mettent en place des centrales d'achat dans toutes les régions, et ils achètent le vin et le champagne français à des prix très élevés. Donc, il y a une opportunité économique absolument incroyable, à laquelle c'était déjà difficile de résister pour ces producteurs et pour ces marchands de vin. Mais, deuxième explication, plus politique, le milieu viticole, nous dit Dreyfus, est complètement pétainiste. Petite anecdote, ou petit symbole intéressant, une parcelle des Hospices de Meaune est donnée au maréchal Pétain, qui se retrouve avec sa cuvée du maréchal, ou sa cuvée Pétain tous les ans, une trentaine de bouteilles, des bouteilles qui chacune aujourd'hui sont évaluées à peu près à 4000 euros. Qui se retrouve avec un vin d'excellente qualité, très haut de gamme, très cher, et c'est la cuvée du maréchal. Et puis, troisième raison, on s'aperçoit que les gens que les Allemands ont placés en France pour acheter le vin dans les différentes régions, des Weinführer, ça s'appelle, hein, et eh bien, ils ont l'habitude de travailler avec ces marchands de vin français. Ils travaillaient avec eux dans les années 30, ils vont continuer à travailler avec eux pendant la guerre, ils vont continuer à travailler avec eux. Après, il y a une forme de corporatisme, de liens entrepreneuriaux qui se sont tissés. Et on suit des personnages assez fabuleux, dont un Bordelais, Louis Eschenhauer, qui s'affichent avec les nazis, qui les promènent en voiture, qui les emmènent dans leur restaurant gastronomique, etc. Donc, on a voilà ces trois explications qui font que on a vraiment affaire à d'énormes collaborateurs, notamment, plus particulièrement, dans le Bordelais, plutôt que dans les deux autres régions. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui, nous dit l'auteur, quand on va en Bourgogne, c'est très ouvert. Vraiment, tout est ouvert aux archives, aux historiens. Quand on va en Champagne, c'est un peu tendu, nous dit l'auteur, mais on arrive à discuter. Par contre, quand on arrive dans le Bordelais, c'est le déni total. On ne veut pas revenir sur cette période difficile.
Jean-Marc Daniel,
ouais, c'est quand même difficile.
C'est raisin du Reich.
C'est difficile d'accueillir avec joie quelqu'un qui titre de ses chapitres Bordeaux, l'épicentre de la honte. C'est quand même un peu agressif. Le ton général du livre, d'ailleurs, est assez polémique. Christian l'a dit, c'est pas un travail d'historien, c'est pas un travail de recherche. Il interviewe des gens, des historiens, quelques survivants, des gens qui sont très âgés, qui sont. Et puis, il fait pas un travail d'analyse, il vient pas dans les documents, il va pas. Ça reste assez superficiel. Avec une question qui se pose, c'est pourquoi et comment peut-on dire que ce secteur-là a plus collaboré que d'autres ? On a parlé de Louis Renault. Pourquoi il aurait plus collaboré ? Alors, il y a effectivement une explication qui est assez intéressante, sur laquelle a insisté Christian et que je rappelle, qui est le fait que tous ces gens-là se connaissaient avant. C'est-à-dire que les gens qui sont nommés comme Weinführer, aussi bien à Bordeaux qu'à Dijon, sont des gens qui étaient avant dans le métier. Et il rappelle d'ailleurs que Ribbentrop travaillait pour des gens qui, au départ, faisaient commerce de vin. Et donc, il continue comme il faisait dans les années 30 avec une opportunité, effectivement, c'est que les Allemands sont prêts à payer n'importe quel prix puisque c'est pas eux qui paient, c'est l'État français qui paie. Donc il y a une espèce de situation dans laquelle les prix montent sans que les gens qui sont supposés subir les conséquences de cette hausse des prix ne soient véritablement dérangés par ça. Et donc il montre ce système, mais encore une fois c'est un peu artificiel et un peu excessif par rapport à la réalité probablement de ce qu'a été le terrain. Alors il dit quand même, il y a deux choses que j'ai trouvées intéressantes. Il concède quand même que Bordeaux a été libéré par Bordeaux. C'est-à-dire que Bordeaux, comme Paris, a été libéré par des résistants. Donc il y avait quand même une résistance locale. Il n'y avait pas que des gens qui collaboraient. Et la deuxième chose, il y a un chapitre que j'ai trouvé assez original.
C'était pas forcément les viticulteurs.
Non, c'était pas forcément les viticulteurs. D'ailleurs, il y a un portrait du maire collabo de Bordeaux, Adrien Marquet, qui a été un très grand collabo. Effectivement, il n'était pas viticulteur. Il était bordelais. Ça, c'était incontestable. Il y était né et tout ça. Et il y a un chapitre assez original sur l'utilisation de l'alcool comme substitut au carburant. Au bout d'un moment, l'armée allemande manque de carburant et elle utilise les surplus de vin pour les distiller, pour en faire de l'alcool. Et ça, c'est assez original. C'est quelque chose qu'on ne met pas assez souvent en avant, à mon avis, sur le rôle qu'a pu jouer la viticulture française à cette époque-là.
Bon, eh bien, on revient au XXIe siècle.
Absolument.
Et on se projette là vers l'avenir avec votre choix, Jean-Marc Daniel. Maintenant, le XXIe siècle peut enfin commencer par Christina Peitschouti et Jacques Bessade chez Erol. De quoi s'agit-il, Jean-Marc ?
Alors, ces deux personnages travaillent dans une banque. Christina Peicuti est italienne et elle a travaillé dans les équipes de Patrick Artus. Elle continue à être économiste de banque.
Chez Natixis.
Chez Natixis. Et Jacques Bessade, lui, il est plus dans la structure directement opérationnelle des banques. Et donc, ils reviennent sur trois crises. La crise de 29, la crise de 2009, la crise sanitaire d'aujourd'hui. En se posant la question, est-ce que les conséquences de ces crises, la façon dont on a répondu à ces crises ont été à peu près les mêmes, et si oui ou sinon, est-ce qu'on peut en tirer des conclusions sur l'avenir qui nous attend ? Alors, le livre est en quatre chapitres, description historique des crises, ensuite comment la banque a répondu aux crises, quelles conclusions on peut en tirer, et puis à la fin il y a une partie qui est des recommandations, sept recommandations pour l'avenir. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est d'abord c'est assez bien écrit, factuellement assez bien décrit, ce qui montre assez bien, c'est d'ailleurs que toutes ces crises sont extérieures au départ à l'Europe, c'est-à-dire la crise de 29 comme la crise de 2009, c'est aux États-Unis, la crise sanitaire, elle est née en Chine, et à chaque fois, c'est l'Europe qui devient l'épicentre de la crise. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que l'Europe est capable de tirer les leçons de ce qui lui est arrivé et de se reprendre en main pour répondre à la future probable, possible crise. Alors,
il viendra encore sans doute d'ailleurs.
Qui risque d'en venir assez d'ailleurs. Il montre bien d'ailleurs dans la préface d'André Comte-Sponville, il montre bien quand même que la crise sanitaire a une originalité, elle a un caractère assez inédit par rapport au reste. Ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que il y a un côté un peu optimiste à la fin. Il rappelle en particulier dans un des chapitres que les années 20 avaient été porteuses d'énormément de découvertes scientifiques sur le plan sanitaire. Il y avait eu les guerres des vaccins, il y a eu la mécanique ondulatoire qui a été trouvée sur le plan de la physique et tout ça. Et ils disent, mais peut-être qu'avec l'ARN, avec tout ça, on va rentrer au travers de cette crise dans des découvertes scientifiques sur le plan médical, mais sur d'autres domaines, qui vont permettre de rebondir.
C'est la thèse après la grande peste, la Renaissance, et absolument. Après la grippe espagnole, les
voilà, absolument. Alors, sur la grippe espagnole, il rappelle des choses qu'on sait tous, c'est-à-dire qu'elle est espagnole parce que personne d'entre nous voulait en parler, des choses comme ça.
Christian Chavagneux, ce 21e siècle qui peut enfin commencer.
D'abord, ça ne parle pas du tout d'avenir, ça parle du passé et de maintenant.
Mais oui, j'allais vous demander le titre, en fait. Pourquoi le 21e siècle peut enfin commencer?
Eh bien, c'est une bonne question. Je n'ai pas compris pourquoi il nous parlait de l'avenir, parce qu'il n'en parle pas du tout, c'est plutôt du passé et d'aujourd'hui.
Il y a 7 mesures à prendre, c'est.
Je vous l'accorde. Alors, on a l'impression, écoutez Jean-Marc, qu'on a un livre très structuré qui part du début, qui fait jusqu'à la fin. En fait, c'est un livre d'opinion, c'est une suite d'opinions. Rien n'est démontré, aucun argument, tout est dit. On est dans le café du commerce des banquiers, si vous voulez, un peu plus haut de gamme a priori, mais on est dans une suite d'opinions, pas d'études statistiques particulières, pas un exemple probant qui nous montrerait que. Alors, comme dans tout livre d'opinion, des fois on est d'accord avec les opinions, des fois on n'est pas d'accord. Quand les auteurs nous disent monter des inégalités, de la pauvreté avec la pandémie, oui, il ne faut pas gérer un hôpital comme on gère une entreprise, oui, il faut investir massivement et urgemment dans la transition écologique, oui, d'accord, bon, c'est des opinions que je partage, puis il y a plein d'autres opinions que je ne partage pas. C'est une suite d'opinions, mais ça passe, il y a une partie qui passe complètement, enfin qui va du coq à l'âne. On démarre avec la monarchie, l'ancien régime fonctionnait à crédit, très bien. Les quatre pages d'après, c'est Première Guerre mondiale, Entre-deux-guerres, Deuxième Guerre mondiale. Les pages d'après, c'est comment Sarkozy a géré de manière géniale la crise des subprimes. Les pages d'après, c'est Trump. Et les pages d'après, c'est conséquences économiques et sociales de la pandémie. Quel rapport avec tout ça? Je ne l'ai pas vu. On a l'impression d'un livre à compte d'auteur. Il n'y a pas un éditeur qui a relu ce livre. Ce n'est pas possible. Une suite d'opinions comme ça, sur plein de petits sujets en quelques pages. Bon, et en plus, ils nous disent que pour les effets économiques et sociaux de la pandémie, grosse montée du chômage et grosse montée des faillites. Bon, on ne le voit pas. Bon, ça, ils se sont trompés, mais il y en a plein d'autres de renom qui se sont trompés aussi. Quand on rentre dans les aspects qui, a priori, les deux auteurs connaissent le mieux, c'est-à-dire la nouvelle réglementation bancaire, qu'est-ce qu'on peut en dire? Là, on est dans la pure idéologie corporatiste. C'est la pure dénonciation de toutes les réglementations qui sont sorties depuis 2007-2008. À les écouter, un PDG de banque aujourd'hui ne peut absolument rien faire. Les réglementations sont infantilisantes. Donc, une fois que vous avez choisi quelque chose, hop, la réglementation vous bloque. Ça voudrait dire que les banques françaises sont comme les banques allemandes, les allemandes comme les banques britanniques, les britanniques comme les américaines. C'est complètement faux. Aucun de ces systèmes bancaires aujourd'hui ne se ressemble. Quant à la description, au matraquage, page après page des nouvelles réglementations pour nous dire, par exemple, je prends un seul exemple, que quand il y a trop de fonds propres, quand on demande aux banques de se financer avec beaucoup de fonds propres, elles arrêtent de distribuer des crédits. Il y a une pile haute comme ça d'études académiques qui dit l'inverse. Donc moi, je veux bien qu'ils défendent leur point de vue, mais d'autres ont défendu d'autres points de vue qui nous disent pourquoi les autres se sont trompés. Donc j'ai été vraiment très très déçu par ce livre.
Non, je lui concède à la critique de Christian qu'il y a quatre pages qui sont vraiment hors sujet sur Louis XVI et les débuts de la Révolution française.
Ouais, il y a 96 pages hors sujet et quatre pages à peu près qui parlent du passé. Ouais. Pour un livre sur l'avenir.
Ben voilà, merci messieurs pour vos critiques toujours bienveillantes, justes, modérées mais toujours pertinentes. Et c'est pour ça qu'on vous aime. On retrouve tout de suite notre bibliothécaire Alexandra Paget. J'espère que vous avez une petite faim ou une petite soif.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain.
Bonjour Alexandra.
Bonjour Emmanuel.
Alexandra Paget, journaliste à la rédaction de BFM Business et notre bibliothécaire du jour qui nous emmène au fil des siècles à travers la grande aventure du chocolat, Alexandra.
Alors effectivement, aujourd'hui on balaye. On ne s'arrête pas à une date et on balaye toute l'histoire du chocolat qui se confond, en fait, avec l'histoire du monde, figurez-vous. Alors, on part de la conquête des Amériques jusqu'à aujourd'hui, avec un produit qui, en fait, a toujours été là. Mais vraiment toujours
été là. Donc, ça s'appelle « Petite histoire de la mondialisation à l'usage des amateurs de chocolat ». C'est écrit par Frédéric Amiel aux éditions de l'atelier, Alexandra.
Exactement. Alors, Frédéric Amiel, son auteur, il est sociologue, anthropologue et il est spécialiste, devinez quoi, des chaînes de valeur globalisées et du chocolat. Et pourquoi c'est intéressant, ce profil ? C'est parce que lui, il fait du chocolat une trace de l'évolution du monde vers l'économie libérale débridée et vers ses excès. C'est-à-dire un peu ce qu'on vit aujourd'hui au travers de cette mondialisation exacerbée.
Alors on commence par quoi ? C'est quoi le début de l'histoire, alors, quand même ?
Le début de l'histoire, alors je vais essayer de vous le présenter, de vous le prononcer correctement parce que c'est de l'aztèque.
C'est compliqué.
Ça s'appelle Chocoatl. Et donc c'est la boisson des dieux chez les Aztèques. Et puis c'est Cortés, hein, le grand navigateur qui n'était pas un enfant de cœur, qui, après une marche sanglante au Mexique, découvre cette boisson qui, en fait, à l'époque, est franchement pas bonne. C'est tout gris, c'est très pimenté et c'est très amer. Mais les Aztèques en font une consommation presque un peu comme le nectar des dieux, si vous voulez, parce qu'il y a vraiment que les prêtres, que les nobles qui peuvent en boire de cette potion, de cette espèce de ces contenus dans des jars. Vous voyez,
sauf qu'après... qu'il pressent quand même le potentiel commercial, j'ai envie de dire, du chocolat.
Ah ben complètement, parce qu'en fait, Cortés, la première chose qu'il fait, c'est il se dit oula, ce truc-là, et il se fait attribuer des terres au Mexique pour pouvoir et des plantations. Et du coup, ça arrive en Espagne. Au début, ça reste en Espagne quelque chose de très confidentiel. Puis ça atteint les cours d'Europe et on retrouve le chocolat. Mais ça, tout le monde s'en souvient. Louis XIV, sa femme Marie-Thérèse, qui buvait son chocolat, qui était soi-disant apparemment très très moche et que donc Louis XIV ne venait pas visiter assez fréquemment et qui, en l'attendant, buvait ses tasses de chocolat. Et donc, en l'occurrence, Madame de Sévigné en parle comme d'un vice. Et donc, vous avez bien suivi jusqu'à ce moment-là, jusqu'au XIXe siècle. C'est vraiment une boisson qui est dédiée aux aristocrates. C'est pas du tout populaire. Et c'est le 19e, avec la révolution industrielle, la machine à vapeur, qui donc fait de cette fève de cacao...
un produit de grande consommation.
Un produit de grande consommation. Et c'est là que ça devient très...
312 grammes par habitant à la fin du 19e siècle... C'est ça, en 15 ans, c'est 3 fois plus.
C'est 3 fois plus. Et en plus, les cultivateurs, pas les cultivateurs, ceux qui raffinent le cacao, ils trouvent des solutions marketing assez incroyables avant l'heure. C'est-à-dire, ils décident par exemple de faire des barres chocolatées. Ça devient des produits qui sont de consommation courante. Mais alors, vous avez suivi, parce que c'est quand même bien le propos de ce livre qui, moi, je trouve, est très bien écrit, et qu'en plus, on apprend plein de choses totalement surprenantes, et puis le rapport entre cette histoire du chocolat et de la mondialisation est très pertinent, dans la mesure où, vous voyez bien que dans les grandes manufactures, à l'époque, il se passe la même chose que dans chez les industriels du cacao, c'est-à-dire qu'il y a les ouvriers produisent en masse, le chocolat devient un produit de grande consommation, il perd de sa valeur. Donc du coup, les plantations à l'autre bout de la terre où les gens sont extrêmement mal payés, où c'est encore de l'esclavage, parce qu'il y a aussi, on passe aussi, je vous passe le détail avec Colbert et le commerce triangulaire, à l'époque le cacao en fait partie. Donc quand on arrive au 19e siècle, ça devient justement une sorte de symbole de la lutte des classes, très clairement.
Très bien. Donc,
voilà, c'est assez intéressant, mais je voulais quand même qu'on joue à un petit jeu.
Allons-y, vous avez 30 secondes.
Bon,
30 secondes
alors,
de jeu.
Un petit le saviez-vous ?
Oui.
Qui a inventé...
Frédéric Simotel peut jouer
alors,
aussi.
Alors, Frédéric va jouer.
Notre globe-trotteur,
si
évidemment.
Si j'ai un morceau de chocolat, si je gagne...
Alors, j'en ai un là, voilà. Les garçons, c'est pour vous.
C'est El Gringo.
Mais celui qui gagne...
C'est El Gringo aujourd'hui, Frédéric Simotel.
Celui qui gagne, il a le chocolat.
Allez. Okay.
Donc alors, comment est née la chocolatine ou le pain au chocolat ?
Aucune idée.
Eh bien, figurez-vous que c'était les ouvriers qui mettaient une barre de chocolat, celle dont je viens de vous parler, entre deux tranches de pain. La mangeaient pour essayer de tenir dans la journée, parce que c'était une journée un peu lourde. Un
du
peu
chocolat
comme vous.
Meunier, s'il
du
vous
chocolat
plaît.
Meunier, s'il vous plaît. Et donc, c'était aussi un remède contre la gueule de bois.
D'accord.
Je vous le dis, ça va vous servir, messieurs.
Bon, il y en a une question pour se racheter ou pas ?
Une petite question pour se racheter. Buvez du cacao Van Houten. À votre avis, quand est-ce que ce slogan a été utilisé et pourquoi ?
Aucune idée non plus.
Bah, figurez-vous que c'est un condamné à mort à l'échafaud à qui on a dit balance cette phrase avant de te faire couper la tête, mon ami. Et si tu le fais, on prendra soin de ta famille.
Incroyable.
Alors, on ne sait pas si c'est vrai. Mais en tout cas, ça, ça a circulé.
Bon, écoutez, on n'est pas très bon. Bon, allez-y, Frédéric Simotel mérite quand même.
Voilà, je mérite mon chocolat.
Son chocolat qu'il mangera après sa chronique que l'on écoute tout de suite.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Cher Frédéric Simotel, qui est donc notre globe-trotteur du jour et qui attendra quelques instants avant de se jeter sur son chocolat. Alors, vous nous parlez d'un personnage extraordinaire sur lequel sort une biographie aujourd'hui en anglais. H.G. Wells.
Oui, Herbert George Wells. Donc on le connaît évidemment pour ses romans La machine à explorer le temps, La guerre des mondes, L'homme invisible. Et là, il y a une autobiographie qui... une biographie.
Une biographie,
oui, il est mort en 46. Oui. Une biographie qui sort, qui s'appelle The Young H.G. Wells, donc la jeunesse d'H.G. Wells, The Original Futurist. Ouais. Parce que oui, c'est le père de la science-fiction. On dit toujours c'est l'homme qui a inventé demain. Parce que tout au long de ses ouvrages, ce sera ça. Et là, l'auteur...
Jules Verne avant quand même.
On l'a comparé à Jules Verne. Mais... dans un univers différent, il a eu des choses beaucoup plus réalistes, des fulgurances beaucoup plus fortes que celles de par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui. Alors l'auteur, c'est Claire Tomalin, c'est une rédactrice littéraire au Sunday Times qui a travaillé à la BBC, qui a fait beaucoup de biographies Charles Dickens, Jane Austen, et donc elle s'est attelée à celle de H.G. Wells.
Chez Penguin, je crois.
Exactement. Et elle s'est concentrée sur les premières années de l'écrivain jusqu'à ses 40 ans, parce que c'est vraiment la période où il a été le plus prolifique. Alors je vais pas vous faire tout le Wikipédia. D'ailleurs, il en a été l'un des instigateurs. Mais voilà, mais c'est vrai que bon, on connaît, je voulais citer quelques ouvrages. Sa période la plus. Elle s'est vraiment arrêtée sur la période la plus prolixe, c'était la fin du 19e, hein, 1895, 1898. C'est là où il a fait sa machine à explorer le temps. Enfin, il a écrit la machine à explorer le temps. Ça nous a tous fait fantasmer. Et puis alors, c'est là où il a commencé aussi à réfléchir à la société. Il a commencé à réfléchir à la politique. C'est là où il a eu des sortes de visions autour de la. Bien avant la Première Guerre mondiale, il a fait attention au nationalisme, à la technologie, les nombreux développements du 20e siècle. Et puis, c'est là où il a aussi l'idée d'une Ligue des Nations. Voilà, il pensait déjà à la future SDN, et puis qui deviendra l'ONU. La liberté sexuelle, il en a été un des exemples, et je vais vous raconter tout ça. Le contrôle des naissances, l'éducation. Il imagine un Wikipédia. Il dit, si on mettait dans un grand dictionnaire, tout le monde viendrait mettre ses connaissances. Et il a imaginé la télé par satellite, le web. Donc voilà, elle parle de tout ça.
Ouais. Alors, la guerre des mondes, c'est 1898. Hein,
exactement, c'est ça. Exactement. Ouais. Et donc, dans les années 1900, il n'a pas encore 40 ans, donc il sort déjà, il a déjà écrit L'homme invisible, la machine à explorer le temps, le livre du docteur Moreau. C'est un Zemmour avant l'heure, enfin, bah, c'est façon de parler, parce que c'est quelqu'un qui était journaliste, éditorialiste, et il s'est vu un jour, il s'est même dit, mais moi j'irais bien aux États-Unis, là, bouleverser tout ça, je me porterais bien candidat à la Maison-Blanche. Et puis on lui a dit, bon, attends, calme-toi un peu. Tu es britannique, reste donc chez nous, on a encore plein de choses à faire ensemble. Et donc, elle nous raconte. Alors, elle revient là à son enfance aussi. Alors, c'était un élève assez brillant. Il a étudié dans la chimie. Ses parents, c'était le fils d'un commerçant qui me. Alors, c'est assez drôle. Son père menaçait toujours de se suicider s'il ne pouvait pas étudier les sciences. Son père déjà avait aimé bien tout ce qui était scientifique. Enfin, voilà, c'était un peu tordu. Alors, sa liberté sexuelle, alors ça elle insiste beaucoup dessus. Il s'est marié une première fois, et puis au bout d'un an il en a eu marre, et il est surtout tombé amoureux de l'une de ses étudiantes qui s'appelait Amy, mais il préférait qu'elle s'appelle Jane, donc il l'appelait Jane. Il la met enceinte, et puis quand il la met enceinte il dit, écoute, moi j'ai trop de besoins, tu dors dans la chambre du haut et moi dans la chambre du bas, je reste comme ça je peux continuer à recevoir mes bonnes amies. Et puis aller voir sa vie, il a eu plein de petits amis partout. Il a été considéré comme le Jules Verne anglais, ben oui. En raison de toutes ses réflexions. Et puis il
fait pas très sympathique quand même finalement globalement personnage.
Non, c'était quelqu'un d'assez sûr de lui. D'ailleurs, à un moment il a dit mais je suis tellement connu que je fais tellement de choses assez incroyables. Il est allé demander une allocation au premier ministre anglais en lui disant, voilà, moi j'aimerais bien que vous me donniez 1000 livres ou 1000 dollars. Enfin bon. Aujourd'hui, ce serait l'équivalent de 100 000. Donnez-moi 100 000 euros par mois pour que je continue à réfléchir. Le Premier ministre lui a dit, non, mais attendez, vous gagnez de l'argent avec vos bouquins, on a terminé. Et puis, enfin voilà, il a pas mal de mises en voiture.
Un personnage incroyablement haut en couleur.
Oui, haut en couleur.
Visionnaire.
Visionnaire, qui parfois, alors elle le compare parfois à Mick Jagger. Elle dit, il a un peu, ouais, il avait un style un peu Mick Jagger, un peu un style liberté
sexuelle. On va dire H.G. Wells, quelque chose entre, oui, à mi-chemin entre Mick Jagger et Jules Verne.
Et voilà, le paradoxe, et c'est amusant, et je vous conseille de lire, mais vraiment, le livre sort là en ce moment. Moi, j'ai pu lire des pages PDF et même en anglais. Il a une certaine immaturité qui contraste beaucoup avec tous les endroits vers où il nous emmène. Et, quoi. Oui. Et ça, c'est assez drôle. Et il est mort à 80 ans en 1946 du diabète.
Merci beaucoup Frédéric Simotel pour nous avoir fait mieux connaître le H.G. Wells jeune. C'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Christian Chavagneux, quel est votre ultime choix pour aujourd'hui ?
Le dernier numéro de la revue Development and Change, un numéro spécial consacré à l'influence des entreprises chinoises sur l'Europe. Vraiment, plusieurs contributions très très passionnantes. 360 entreprises ont été rachetées sur les 20 dernières années par les entreprises européennes, ont été rachetées par des entreprises chinoises. Un tiers dans des domaines de haute technologie. On voit comment la Chine s'approprie la haute technologie et les recherches, le fruit des recherches européennes. On a un autre papier sur comment il y a un réseau sino-européen d'entrepreneurs qui est en train de se constituer, dominé à 60% par les autorités, par des entrepreneurs chinois. On a aussi un excellent papier sur comment les entreprises chinoises essaient de développer au niveau mondial leurs propres standards locaux. Ça passe par le fait qu'ils arrivent à caser des Chinois dans les grandes institutions, ça passe par les routes de la soie. Bref, 5-6 papiers de contribution sur comment les entreprises chinoises sont en train de mettre le pouvoir sur l'économie européenne. C'est passionnant.
Formidable. Jean-Marc Daniel.
Alors moi j'ai choisi un dictionnaire amoureux, vous connaissez cette collection, oui, chez Plon, et vient de paraître un dictionnaire amoureux de l'entreprise et des entrepreneurs. Une des originalités de ce dictionnaire amoureux, c'est que d'habitude c'est quelqu'un, une personne, un auteur qui s'attelle à la, oui, tâche de faire tous les articles. Là c'est toute une collection d'auteurs avec des perspectives très diverses. Il y a même un article de Jean-Michel Villemotte qui est architecte sur qu'est-ce, ah oui, que c'est qu'être un entrepreneur en architecture. Il y a des philosophes, et donc c'est un livre à la fois original et que dans lequel on se promène, donc et qu'on peut offrir. Je trouve que c'est un assez beau cadeau à ces périodes où on approche des fêtes.
Et ben même chose pour moi, un livre dans lequel on se promène et qu'on peut offrir, une BD vraiment très drôle par Gabs. Ça s'appelle Le télétravail, je me marre. Alors c'est des petites scénettes très bien dessinées avec des punchlines très drôles. Allez, je vous en cite une que j'ai trouvé qui m'a bien fait rire. Avec le télétravail, moi, je rêvais de travailler autrement, pas de vivre chez moi autrement. C'est plutôt rigolo, franchement, ça vaut le coup. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.